Me voilà flatté. Je trouve que vous avez de l'endurance, c'est bien. Donc nous allons aujourd'hui finir l'introduction, c'est du moins la grâce que je vous souhaite, et évidemment passer beaucoup de temps avec le personnage dominant qui termine l'époque précédente et enfante l'époque suivante, c'est-à-dire avec Saint Vincent de Paul, dont on n'a pratiquement aucun sermon, mais dont on a beaucoup de confidences, de textes, qui dit comment il faut prêcher, car il a eu une multitude, de très nombreux disciples, et parmi ces disciples, des gens qui sont devenus importants. Mais vous vous souvenez que on commence dès la fin des guerres de religion une amélioration de la prédication dont le but est bien entendu double. Le premier, instruire le peuple catholique qui ne l'était plus beaucoup et mettre l'exposé de la foi de manière organique, si je peux employer ce terme, pour une si grande chose, de sorte que tout soit à sa place et qu'on n'apporte pas plus d'importance à des détails qu'on ne l'apporte à un dogme. Ça, c'est le premier point. Et c'est vrai que il suffit de ne pas enseigner le catéchisme pendant un certain nombre d'années pour s'apercevoir que le peuple est abandonné à des opinions et que ces opinions l'emportent largement sur ce qu'est la doctrine. Il n'est pas nécessaire de remonter très loin dans le temps pour s'en apercevoir. En même temps, si l'on instruit ce peuple, c'est parce qu'on le veut qu'il soit lui-même capable de défendre sa foi vis-à-vis des réformés. La grande entreprise du XVIIe siècle, qui commence avant même que l'édit de Nantes ait été signé, consiste à vouloir ramener dans le giron de l'Église ceux qui se sont égarés. Alors il y a un très grand mouvement de controverse, c'est presque un sport national à cette époque-là, un grand mouvement d'apologétique aussi. Et on veut essayer de trouver le meilleur moyen de ne pas extravaguer au-delà de la foi. Donc vous vous souvenez qu'il a fallu, pour autant que faire se peut, enlever de la prédication tous ceux qui l'encombraient et qui empêchaient d'avoir une compréhension simple, claire de la foi. Donc, dès qu'on le pourra, une grande partie des prédicateurs va chercher à élaborer pour soi un langage simple qui deviendra la langue classique. Je conviens que les juristes ont la même ambition, que les gens de théâtre ont la même ambition, que tous ceux qui, en définitive, manient le langage pour être compris de leurs auditeurs, ce qui n'est pas le cas de tous les prédicateurs, ni de tous les juristes, ni de tous les professeurs, je vous l'accorde, eh bien, cherche à élaborer ce langage simple, mais capable de tout dire. Capable de dire en termes simples les vérités les plus élevées. Voilà l'ambition de ceux qui vont essayer de mettre sur pied ce style nouveau de parler, singulièrement dans au service de la prédication. Cela ne va pas sans former les prédicateurs, évidemment. Et l'entreprise, si l'on peut employer un tel mot pour une si grande chose, la plus importante sera l'oratoire du cardinal de Bérulle. Le cardinal de Bérulle, qui n'a jamais prêché de sa vie, notez-le bien, tant il était timide, a fondé une congrégation chargée de prêcher Et un de ses biographes dit que au moins il leur a appris ce que pouvait entendre celui qui ne parlait pas. Et il a écrit des multitudes de livres et des multitudes de textes, il a fait des conférences, etc. Mais on n'a pas souvenir de qu'il ait prêché. Et c'est de cet oratoire-là que Bossuet dira, dans l'oraison funèbre qui fera du père Bourgoin, qui est le premier successeur du cardinal de Bérulle à la tête de l'oratoire, « Là, pour former de vrais prêtres, on les mène à la source de la vérité. Ils ont toujours en main les saints livres pour en chercher sans relâche la lettre par l'étude, l'esprit par l'oraison, la profondeur par la retraite, l'efficace par la pratique, la fin par la charité, à laquelle tout se termine et qui est l'unique trésor du christianisme. » Eh bien, voilà qu'en quelques mots, Bossuet, au terme de cette période de préparation, voilà qu'en quelques mots, Bossuet dit tout, montre ce que fit l'entreprise. Qui tentait, qui voulait rendre la chair à une simplicité faite de grandeur et de vérité. La prédication de ceux qui travaillaient à cette réforme était grave, mais elle n'excédait pas l'Évangile, elle n'excédait pas les Saintes Écritures. Et on ne les voyait pas se parer de ces futiles ornements dont leurs devanciers avaient été si friands. La prédication, alors, dans leur bouche, devient un art. Un art éminemment chrétien, nous l'avons compris, mais un art qui ne procède pas de la difficulté, mais de la simplicité. Un art qui cherche le naturel, mais qui veut être éloquent. Son éloquence étant au service de l'implacable logique de la foi catholique. Débarrassé de tout ce qui pourrait l'encombrer et de tout ce qui pourrait distraire les auditeurs. Et je ne pense pas là seulement à quelques grossièretés qu'on aimait dire autrefois. J'évoquais la dernière fois les sermons de la Ligue qui sont assez gratinés, il faut le dire, pour un certain nombre d'entre eux. Je ne parle pas des singeries dialectiques qu'on aimait employer, etc., dont on mettra un demi-siècle à se débarrasser. Hein. Mais plutôt, j'évoquerai à ce propos tout l'arsenal du merveilleux. J'évoquerai à ce propos toute l'érudition indiscrète dont on a combré en tout propos tous les discours, tout ce qui éloignait de la vérité de la foi. Et en fait, ce que l'on recherche avant tout, le progrès le plus important, c'est que désormais le prédicateur ne parlera que de la foi, et dans ce cas-là, de plus général. Et il ne fera pas, il s'interdira de faire une démonstration par le merveilleux, dont vous vous souvenez que le Concile de Latran avait condamné les exagérations et avait dit, ben voilà le danger. Ni par l'apocalyptique épouvantable, ni ça. La logique de la vérité de la foi. Mais c'est un long travail, puisque sans cesse reviennent tour à tour les défauts dont on veut se garder. De nouveaux obstacles se présentent, et si par hasard le prédicateur s'y abandonne, voilà que son enseignement est tordu, est défiguré, est distendu. Massillon dira dans son discours de réception à l'Académie française qu'il est même déshonoré. L'emphase, le purisme sera un nouveau danger. C'est l'époque de Balzac, Gouès II, voilà. C'est l'époque de l'hôtel de Rambouillet, c'est l'époque des précieuses. Comment un prédicateur ne serait-il pas sensible à cela? D'autant plus que si c'est un prédicateur parisien, ou en tout cas qui est célèbre à Paris, il y a de grandes chances qu'il aille prêcher à l'hôtel de Rambouillet. C'est un exercice qui se pratique à la fin de la soirée. Si un prédicateur est là, on lui demande un ch'tibou de sermon. L'inoubliable Bossuet a commencé sa carrière comme cela. Un soir, à la fin des exercices admirables de l'hôtel de Rambouillet, on a demandé à ce jeune homme, qui n'était pas tout à fait un inconnu, il était prieur de la Sorbonne tout de même, il était cultivé, etc. On lui a demandé de prêcher, il a prêché, un petit morceau de quelque chose, et c'est là où Voiture a dit « Je n'ai jamais vu prêcher ni si tôt, ni si tard. » Et quand vous prêchez dans une telle ambiance, quand vous fréquentez de tels gens, vous ne pouvez pas ne pas être touché, non pas par le ridicule des choses, mais par le purisme que l'on y cherche, par l'emphase vraie que l'on y développe. Tout est une question de mesure. Or, après avoir entendu Molière, nous savons que la mesure n'était pas ce qui tenait le plus longtemps dans ce genre de milieu. Beaucoup de prédicateurs se laissent avoir et se croient dans la chaire de je ne sais quelle église, encore dans la ruelle de Madame de Rambouillet. Alors, on s'abandonne au défaut du temps. Au moins, ne tombe-t-on plus dans le burlesque d'autrefois? Détrompez-vous. Ce sont les contemporains de Scarron. Et Scarron a des lecteurs et même des imitateurs. On va pouvoir faire du burlesque dans les chairs encore pendant quelque temps. Les mauvaises habitudes ont la peau dure, surtout lorsqu'on a des clients. Parce que ça aussi, c'est un art. Bon, la grosse farce, non, c'est pas ça. Mais la farce tout de même, oui, ça se trouve encore dans les chairs. Et ça n'est pas une vieille lune, parce que Caron n'est pas un vieux monsieur à cette époque-là encore. Et puis, il y a le danger qu'on a voulu beaucoup éviter, il nous avait coûté assez cher pendant la Ligue, c'est-à-dire la critique politique. Évidemment, sous le roi Henri IV, valait mieux ne pas trop se tenter le coup. Sous le roi Louis XIII et le cardinal de Richelieu, valait pas mieux non plus. Mais une fois que le grand cardinal et le non moins grand roi s'en sont allés, on pouvait s'en donner. Et le cardinal de Retz, qui n'était pas encore cardinal, qui était coadjuteur, monseigneur de Gondi, va ressusciter cette espèce de critique politique que l'on fait à l'occasion du sermon. Et d'autre part, il y a l'autre danger, le trop d'austérité. Le courant, alors comment est-ce qu'on va appeler ce courant? En tout cas pas janséniste, hein, parce que avant 1643, ça veut rien dire. Enfin, 1643, janséniste, ça veut rien dire. Ça voudra dire quelque chose après la publication de l'Augustinus, mais avant, ça veut rien dire. On va appeler ça comment? Moi, j'aurais tendance à faire pour ne fâcher personne. L'augustinisme pessimiste. Et avec ça, vous voudrez brouiller. L'augustinisme pessimiste, alors, lui, va produire une prédication austère. Tellement austère, qu'il ne porte pas la joie de croire, mais on est assommé par la vérité. Ils sont austères jusqu'à la sécheresse. Mais il dégage la prédication de je ne sais quelle fadeur académique qui pourrait la toucher, de quelque bel esprit cloué mal à propos, des trivialités que j'évoquais tout à l'heure, bref, du caractère mondain. Et entre les courants, à ce moment-là, il n'y a pas de barrière. C'est une chose que je pense devoir être soulignée. À partir du moment où l'Augustinus est publié, où commence à naître, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, un parti particulier janséniste. Et que, où l'on est d'un côté, où l'on est de l'autre. Il n'y a plus de circulation entre les groupes. Ce qui n'était pas vrai avant cela. Avant cela, on pouvait très bien aller écouter un jésuite prêcher, surtout si c'était un jésuite de l'école spiritualiste, je n'ose pas dire de l'école française, et puis aller le lendemain écouter M. de Saint-Cyran, qui prêchait d'ailleurs avec beaucoup de précision, et un vrai génie de la parole, presque autant que son génie de l'écriture. Les gens se rencontraient, les gens ne se faisaient pas que se rencontrer, les choses se communiquaient. Après non, après c'est fini, après on est dans un parti ou on est dans un autre, voilà. Mais la prédication n'était pas un ensemble de mondes clos qui coexistaient. Je parlais par exemple de prédication austère, que l'on donnera augustinien pessimiste. Vous savez, il y a un jésuite qui s'appelle le père Mainbourg, qui aura plus de succès comme historien, encore que ça ne soit pas un homme tout à fait détaché des affaires de son temps, et que ça ne soit pas le meilleur historien que l'on connaisse, parce qu'il est quand même très engagé dans ces choses. Enfin, le père Mainbourg, ses prédications sont réfrigérantes, polaires, pas d'émotion. Or, c'est un jésuite. Et il n'est pas du tout tenté par le jansénisme, un peu le contraire d'ailleurs. Il faut naviguer entre tout ça et c'est toutes ces choses existantes et se conjuguant qui finissent par s'affronter les unes les autres, à se purifier les unes les autres et à faire advenir en quelque sorte, à participer, à faire advenir en quelque sorte la langue classique. L'éloquence chrétienne, évidemment, repose sur la foi du prédicateur et sur la foi de ses auditeurs. Si le prédicateur parle, c'est pour arracher les âmes à la tiédeur, au désordre du monde. L'Évangile lui sert de point d'appui pour remuer les cœurs, pour faire entrer dans les cœurs des résolutions chrétiennes. Le fond ne change jamais. L'interprétation des Écritures appliquée aux besoins de la vie quotidienne. Vous savez que la grande victoire, je vous le dis entre nous, et vous ne le répéterez qu'avec parcimonie, mais la grande victoire des prédicateurs du XVIIe et du XVIIIe siècle lorsqu'ils faisaient leur travail, la grande victoire de l'Église, pour tout dire, c'est qu'on s'adresse aux gens tels qu'ils sont. L'homme philosophique, je ne l'ai jamais rencontré dans la rue. Le chrétien auquel je m'adresse, je le vois face à face. Et les difficultés qu'il a, je les ai aussi. Je parle l'Évangile, enfin le prédicateur entend parler l'Évangile, il n'entend pas dire autre chose que les Écritures, mais pour rejoindre les gens là où ils sont, et pas là où ils sont pas, c'est pour les rendre saints là où ils sont et tels qu'ils sont. Ça a été le grand enseignement de saint François de Sales, même s'il dit que c'est pas lui qui a inventé que l'humanisme dévot existait avant qu'il arrivât à Paris. Il a vu ces gens, il les a trouvés extrêmement sympathiques, et il a décidé de leur donner un petit coup de main. Trivialement, c'est comme ça qu'il raconte la chose. Mais ce sont des vrais gens, et on parle à des vrais gens, on ne parle pas à des gens qui n'existent pas, on ne parle pas à des archétypes, on parle à des gens tels qu'ils sont. Rejoindre les gens dans leur vie journalière, répondre aux besoins spirituels de leur vie journalière, et surtout empêcher que leur vie journalière soit grande affaire des prédicateurs du grand siècle, il faudrait bien dire penser, soit éclatée, que d'un côté j'ai la vie du monde, et de l'autre côté, j'ai ma vie chrétienne. Pour le prédicateur du XVIIe siècle, il n'y a qu'une seule vie. Et il faut que cette unité de vie se fasse, et la foi, la religion, la vertu de religion, c'est faire cette unité de vie. La méthode, c'est d'être soumis, de se soumettre au même progrès que l'entendement de vos auditeurs. Je ne dis pas se soumettre au progrès de l'esprit humain, parce que là, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez là-dedans. Mais je parle de l'entendement des auditeurs. Je ne dis pas à mes auditeurs ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ça serait perdre son temps. Mais, suivant l'entendement, je vais petit à petit les initier. Or, il ne vous a pas échappé que la plupart des prédicateurs, non pas les grands, mais les petits, les ordinaires, les petits, les sans grade, les curés, quoi, en fait, ils parlent toujours aux mêmes personnes. Les professeurs de collège, les prédicateurs de collège, c'est extrêmement important. Ils prêchent tous les jours. Le petit garçon qui est dans le collège, il entend un sermon tous les jours. Dans un collège où on ne le prend ni pour un imbécile, ni pour un inutile, ni pour un ignorant. Mais dans un collège où, au contraire, on va essayer de lui montrer qu'il est déjà une personne. Il entend prêcher les jours. Et on va lui prêcher selon... On ne prêche pas au cinquième comme on prêche au troisième. Je vous rappelle que Saint Jean-François Régis, le gros de sa prédication, il l'a faite au collège, hein. Au collège du Puy, en plus, il n'était pas gâté. Au collège du Puy, il n'a pas fait ça de brillant collège parisien ou je ne sais quoi. Il était, et il a fait la plupart de ses prédications là-dedans. C'est très important. Donc, en gros, le prédicateur ordinaire, il s'adresse toujours aux mêmes personnes. Et petit à petit, il va les initier à des vérités toujours plus hautes. Jusqu'à ce que on puisse toucher alors des mystères plus grands, ou plus grandement le mystère. On va toujours suivre les progrès de l'entendement des auditeurs. Et grâce au progrès du goût, plus on va aller, et plus la méthode deviendra simple, deviendra naturelle, et c'est pour cela qu'elle sera féconde. C'est le prof de la langue classique. La langue classique ne doit pas être compliquée. On doit pouvoir comprendre tout ce que l'on dit. Mais avec cette même langue, avec des mots simples, je vais pouvoir dire des choses difficiles à comprendre, des choses qui ne sont pas communes. Le style du prédicateur ne doit être ni barbare, ni trop poli, ni inintelligible par son obscurité. Et ça me rappelle Saint Alphonse Marie de Liguori qui, très longtemps après, dira « Oh, moi, j'ai toujours prêché de manière à me faire comprendre de la bonne femme la plus simple et la plus grossière. » Or, j'évoque Saint Alphonse Marie de Liguori non pas seulement par piété, mais parce qu'il a fait pour l'Italie ce que nos classiques ont fait pour la France. Et son désir à lui était d'avoir une langue italienne épurée, générale, parce que, bon, vous savez, encore pendant la Deuxième Guerre mondiale, un officier sarde ne pouvait pas être compris par des soldats siciliens. Donc, il fallait des officiers siciliens pour les soldats siciliens. Voilà. Imaginez à l'époque de Saint-Alphonse Marie Liguori, mais il a été un de ceux qui a créé une nouvelle langue italienne, qui a des caractéristiques semblables, en tout cas pour les mêmes raisons que les classiques français. Il est important aussi, pour le prédicateur, de considérer que tout le monde est pareil devant Dieu. C'est-à-dire que je vais garder les formes. Je vais garder les formes du respect. Je vais garder les formes que la vie sociale induit naturellement, sans quoi c'est le désordre. Je vais appeler le roi sire, je vais appeler la reine madame, je ne vais pas parler n'importe comment au prince, mais devant Dieu, roi ou pas roi, nous sommes les hommes. Et il est important de considérer qu'au pied de la chaire, il n'y a que des égaux. On ne courtise pas en chair, même si, bien entendu, on garde les formes du respect. Vous vous souvenez, je vous avais lu la dernière fois le brillant accueil que Gaston d'Orléans avait reçu de Jean-Pierre Camus, évêque de Belley, lorsqu'arriva un lundi de Pâques, en retard au sermon, il avait voulu faire recommencer. Je parais bien, je vous l'ai lu. Ben, par exemple, on peut citer le père Demar, qui est un, ou Desmar, comme vous voulez, qui est un oratorien assez bouillant. C'est un type assez... Qui va souvent un peu loin dans l'égalité. Bien, bonjour. Il lui est arrivé. Alors, il naît en 1599, il meurt en 1687, ce qui fait beaucoup, mais il va passer un certain nombre de temps de sa vie ailleurs. Dans un premier temps, Anne d'Autriche le fera exiler à Quimper. Après, il sera exilé, je ne sais pas où, parce qu'il est absolument intenable. Donc, en fait, il revient à Paris après 1668, mais. Il a plus la hargne, parce que c'est de la hargne, c'est plus que de l'agnac chez lui, qu'il avait. Enfin, ce père de Mar était un prédicateur très couru et qui, indépendamment de sa colère, correspondait assez bien à ce désir de vérité et de non-acception de personne. Et il lui est arrivé un jour qu'il prêchait à Saint-Roch, une aventure à peu près semblable, mais cette fois avec le prince de Condé. Et le prince de Condé n'était pas Gaston d'Orléans, c'est du Grand Condé dont je parle. Et à ce moment-là, le Grand Condé est dans la plénitude de sa gloire. Il n'a encore trahi que peu de gens, en tout cas pas l'État. Il est le grand vainqueur de toutes sortes de batailles. Et il vient au sermon. Ben, comme vous l'allez voir tout à l'heure, il vient au sermon, non pas parce qu'il a la foi, mais parce qu'il veut entendre quelque chose de convenable, c'est un art. Et le père de Mar est considéré alors comme un art. Bon, évidemment, le prince de Condé arrive en retard, son entrée cause un peu de désordre dans l'auditoire, le prédicateur s'arrête, et fait, disent les spectateurs, des mines, ce qui était assez dire, et quand le prince est enfin assis, il lui sert ce petit compliment. « Ah, monseigneur, j'explique cet endroit de l'Évangile où il est dit que Jésus-Christ guérit une main sèche. Il m'est très glorieux que votre Altesse vienne augmenter le nombre de mes auditeurs. » Je prie le Seigneur de conserver le bras qui est la terreur de toute l'Europe et le bonheur de la France. Mais en même temps que votre Altesse se souvienne que si elle ne rapporte pas tous ses exploits à Dieu, comme à sa fin dernière, Dieu permettra que ce bras se sèche comme celui de notre Évangile. Vous comprenez pourquoi, si vous vous souvenez de votre vieux Boileau, il dit « Desmar dans Saint-Roch n'aurait pas mieux prêché ». Mais voilà qui est le fameux Desmar de Boileau. Et après cette algarade, le sermon se passe, etc., et quelqu'un demande au prince ce qu'il en a pensé, et il dit « Ah, vous m'aviez dit que c'était un diable d'homme, il est en effet, parce que si j'eusse continué à l'écouter, je me serais peut-être converti ». Tout le monde, à part Boileau, qui écrit d'ailleurs 25 ans après, ou 23 ans après, a oublié le père Desmar. Parmi ceux, avant de passer à Saint-Vincent de Paul qui reste, j'en voudrais citer plusieurs. Je voudrais d'abord, puisque nous sommes dans l'acception de personne, vous citer alors un type que tout le monde a totalement oublié, c'est Amable de Bourseil. Amable de Bourseil est un monsieur d'un âge certain, il est né en 1606 à Volvic pour les puristes, et il est mort en 1672, mais en 1672 il ne prêchait plus. On n'a pas grand chose de lui, on a 21 sermons de lui, il n'y a pas de quoi, non, c'est pas merveilleux. Et le dernier sermon, en revanche, c'est l'oraison funèbre de Louis XIII. Et là, d'abord, c'est une belle langue. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté sur un disque l'oraison funèbre d'Henri IV, c'est par l'évêque de Bazas, c'est incompréhensible. Là, vous avez déjà une langue classique. Nous ne sommes qu'en 43. Et puis surtout, on va au cœur des choses. C'est l'oraison funèbre de Louis XIII. C'est donc un événement politique et mondain tout à la fois, en même temps qu'un événement religieux. Et je ne sais pas bien pourquoi l'oraison funèbre est prononcée à l'église de Saint-Jean en Grève. Voilà le début. Pas le reste. Depuis que l'homme eut perdu sa liberté avec l'innocence, et que d'arbitre et de prince qu'il était de toutes choses, il fut devenu le prisonnier et l'esclave de la mort, ce rude maître prit possession de son empire dès l'instant qu'il l'eut reçu, et étendant sa puissance tyrannique sur le corps et sur l'âme de ses sujets, il a exercé par la douleur sur leur corps et par la crainte sur leurs esprits. L'apôtre dit aux Romains de la première, « Toute créature gémit en ce monde sous la servitude de la corruption, en est souffrant des douleurs pareilles aux douleurs de l'enfantement. » Vous avez reconnu saint Paul aux Romains, chapitre 8, et peut-être même verset 21. Et il dit aux Hébreux dans la seconde, même si saint Paul, tout le monde le sait aujourd'hui, n'est pas l'auteur de l'épître aux Hébreux, c'est quand même son meilleur disciple, dont on ne sait rien, qui semble l'être. Pour délivrer ceux qui étaient soumis à un perpétuel esclavage par la crainte de la mort. Hébreux chapitre 2, verset 15. Étrange et horrible tyrannie où le tyran est le vainqueur par cela même qu'il est craint. Où l'appréhension ou la crainte qui est le premier garde de notre liberté est comme un espion, s'il faut ainsi dire, qui doit nous avertir des maux qui nous menacent, est au contraire un serviteur qui nous trahit, qui est l'intelligence avec l'ennemi dont il devrait nous défendre et qui nous engage dans sa servitude avant qu'il soit né pour nous commander lui-même, qui était soumis à un perpétuel esclavage par la crainte de la mort. Mais s'il est vrai que la mort domine sur les âmes viles et populaires en les menaçant et en les effrayant de sa venue, combien règne-t-elle plus fortement et plus absolument sur celle des souverains? Car en effet, paraît-elle affreuse et épouvantable à ceux qu'elle approche dans des cabanes sur la paille et sur le chaume, comme elle l'est à ceux qu'elle attaque dans la pourpre, dans les palais d'or et de marbre, entre les régions armées, entre les gardes et les adorateurs de leur majesté? Les grands, les princes de ce siècle, ne sont-ils pas ordinairement sujets à ces deux faiblesses naturelles qui leur abattent le courage et qui les rendent plus sensibles à la commune nécessité de mourir? La vanité et la mollesse de la vie ne sont-ce pas comme deux vis attachés à l'éminence de leur condition? L'éclat, la pompe qui les environne, la richesse de leurs trésors, la magnificence de leur suite, les enchantements de leurs flatteurs, ne sont-ce pas autant de tisons, s'il faut ainsi dire, qui allument l'orgueil? L'intempérance, la délicatesse de leur nourriture, l'oisiveté, la complaisance de leurs courtisans, ne leur sont-ce pas autant d'amorces et d'allèchements à la volupté? Qu'est-ce donc on peut s'imaginer ou de plus terrible à leur orgueil que la pourriture qui suit la mort ou de plus formidable à leur mollesse que les souffrances des mourants? Ainsi il paraît, chères âmes, que des plus puissants parmi les hommes, la mort en fait les derniers de ses esclaves, qu'elle les précipite avec d'autant plus de violence qu'elle les jette de plus haut, et que de leur dignité même souveraine et royale, elle fait le comble de leur servitude. Après, évidemment, il va faire une chose assez intéressante, c'est-à-dire qu'il va montrer combien Louis XIII était déjà mort, en définitive, et c'est pour ça qu'il est bien mort. Enfin, donc il montre Louis XIII qui n'a pas peur de la mort, ce qui est purement vrai, hein. Je crains que ce soit le seul roi au monde qui ait composé sa propre messe des morts, bien longtemps avant que de mourir. Puis mourir avec Saint-Vincent de Paul, qu'est-ce que vous voulez, on meurt plutôt bien. Mais il était déjà plus un homme quand il était là. Enfin, bon, après, on a... Mais ce long morceau, pour bien vous souligner qu'il n'y a pas de... Devant la mort, tout le monde est pareil. Vous vous souvenez de Massillon à Saint-Denis devant le cadavre du grand roi. Dieu seul est grand, mes frères, et voici le moment où l'homme n'est plus rien de ce qu'il croyait être. il faut toujours se rappeler cette réalité. Devant la mort, il n'y a qu'égalité. Parmi les prédicateurs que je vais évoquer rapidement, parce qu'ils ont beaucoup marqué, moins leur siècle qu'ils ont marqué, que leurs disciples. Le premier, évidemment, dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, est le père Jean le Jeune, qui naît en 1592, qui meurt en 1672, que l'on connaît comme le père aveugle, car un jour, prêchant à Rouen, il a été frappé de cécité en chair. Et il s'est arrêté un instant, il s'est frotté les yeux, puis il a continué à prêcher, et les gens se sont aperçus qu'il était aveugle quand il n'a plus pu descendre de la chair, parce qu'il ne voyait pas les degrés. Il a encore prêché pendant des multitudes d'années. Évidemment, il n'écrivait pas. Donc beaucoup de ses sermons sont des copies de ce que des gens ont entendu, etc. Ça fait quand même 40 volumes, hein. C'est pas rien. On peut supposer qu'il y a des sermons qu'il a écrits avant aussi. Lui-même est un ancien magistrat, par héritage, si j'ose dire. Son père était conseiller au Parlement de Dole, il a succédé à son père comme conseiller au Parlement de Dole, puis après il est rentré dans les ordres, il a été chanoine d'Arbois, et à la fin du compte, il a rejoint le cardinal de Bérulle et est entré dans la congrégation de l'oratoire. Il a été pendant un certain temps supérieur du séminaire de Langres, et puis après il s'est adonné à la prédication populaire, et il a été très couru et très célèbre, il a parcouru au moins le nord de la France bien des fois, et comme je le disais, ses sermons, ça fait 40 volumes, donc vous voyez qu'il a eu de l'ouvrage. C'est une prédication au style extrêmement simple. Et d'abord, il refuse avec vigueur de mélanger à sa prédication des citations mal choisies, des histoires invraisemblables. Non, non. Il ne veut que des démonstrations solides et simples. Et il emploie sciemment des expressions surannées parce que ses auditeurs les comprennent. Mais il le fait sciemment, il le fait... Quand on lit le Père le Jeune, et qu'on lit le Père le Jeune avec un peu d'humour, on voit qu'il savoure les instants, on voit qu'il a une certaine joie, un certain bonheur à prêcher, et qu'il connaît son métier, c'est vraiment un homme de métier, ça c'est sûr. Massillon, qui ne ressemble en rien au Père le Jeune, l'a recommandé comme un excellent modèle d'éloquence chrétienne, pourvu qu'on eût assez de goût pour savoir discerner ce qu'il fallait y prendre et ce qu'il fallait y laisser. Que quant à lui, il en avait tiré de grands avantages dans cette lecture. Mais, s'il dit parfait, mais bon, il y a des choses qui sont à laisser parce que c'est passé de mode, parce que c'est plus compréhensible. Le Père le Jeune, en aucun moment, me semble-t-il, n'atteint la grande éloquence. On en est encore loin d'ailleurs à l'époque où il est fort célèbre dans les prédications. Mais il en donne les traits essentiels. La solidité de sa doctrine, qui s'unit à un langage populaire, mais plein d'onction. Un langage populaire ne signifie pas un langage vulgaire. C'est un langage simple. Et pour dire des choses, pour élever les esprits vers des choses plus hautes dans un langage merveilleusement simple, il est réellement un père fondateur de cette manière de faire. Peu de gens l'ont réussi aussi bien que lui. Pas d'exégèse compliquée chez lui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exégèse, mais pas de compliqué. Pas de cette symbolique qu'on a héritée des temps anciens, que le grand Bossuet aimera faire de temps en temps, perdre les gens dans des symboles, etc. De temps en temps, Bossuet aimera beaucoup ça, parce que c'est un jeu que les Français aiment beaucoup. Nous sommes ici un certain nombre de prédicateurs, vieux et jeunes, qui savons combien nos auditeurs sont très accrochés dès qu'on parle de symboles. Et nous savons tous que certaines sectes ne se haussent du col que parce qu'ils inventent une symbolique de cathédrale et je ne sais quoi. Le jeune ne veut pas, se veut ça à aucun prix. À aucun prix. Évidemment pas de rhétorique pédantesque, mais de manière, ces auditeurs n'auraient rien compris à ce genre de choses, mais c'était très fort au moment où il a commencé sa carrière de prédicateur, la mode en était là. Et sa parole est dégagée de toute préoccupation mondaine, il est strictement au-dessus de tout. Il sent le prix d'une âme, dira saint Vincent de Paul en parlant de lui, il sent le prix d'une âme. Évidemment, un homme si célèbre ne manque pas d'être invité à la cour pour prêcher. Eh bien, n'imaginez pas qu'il ait fait le moindre effort à la cour. Il a rappelé aux grands qui étaient là leur devoir d'élever leurs enfants et comment ils devaient le faire. Rien. Eh bien, il a fait un carton, comme on ne disait pas à l'époque quand même. Et ça a accru encore sa popularité. Alors, à la tête de l'édition qu'il a donnée de ses sermons, il a dicté ce qu'il a humblement appelé « Avis aux jeunes prédicateurs ». Et là, il a résumé l'expérience qu'il avait acquise pendant un demi-siècle d'apostolat. Entre tous les conseils judicieux et pratiques qui compose ce très joli petit traité, se trouve une très pressante recommandation, lisez les pères de l'Église et allez puiser dans les pères de l'Église les preuves que la chair ne doit jamais demander aux fables écrites par les païens. Donc, là, c'est la rupture. C'est-à-dire que, avant, si une belle histoire païenne, un beau petit morceau de mythologie pouvait vous arranger le coup, on le faisait. C'était même l'usage le plus courant. Chez le jeune, non. Les pères de l'Église, point. Ailleurs, mais pas dans ce bouquin, mais dans le sermon, il dit, c'est pas parce qu'on a lu les pères de l'Église qu'on est obligé de les réciter. Pas obligé de tartiner les citations des pères de l'Église, que vous savez, si vous dites ce que le père de l'Église a dit, c'est déjà bien. C'est ça qu'on vous demande. Mais on rompt tout à fait avec cette habitude d'aller chercher ailleurs que dans les Écritures ou dans les écrits ecclésiastiques ce qui peut faire preuve à notre discours. Et cet avertissement est d'autant plus remarquable que le père Lejeune est, me semble-t-il, le premier dont les sermons sont absolument exempts de tout mélange entre le sacré et le profane. Et sur ce point, au moins, on doit le regarder comme un grand réformateur de la prédication. Évidemment qu'il va condamner expressément la bouffonnerie, en disant « il faut s'abstenir de toute parole tendant à faire rire, cela ressent le charlatan. Le Fils de Dieu a parlé, toujours avec beaucoup de gravité. » Et c'est aussi dans ce petit livre, mais c'est dit d'expérience, des jeunes prédicateurs qui lui demandaient « mais père, que faut-il faire pour bien prêcher ?» Et il répondait, le premier avis que je vous donne pour bien prêcher, c'est de bien prier Dieu. Le second, c'est de bien prier Dieu. Le troisième, le quatrième, le dixième, c'est de bien prier Dieu. Donc, alors, il souligne bien ce qui est effectivement une nécessité, c'est-à-dire que la prédication est enracinée dans les prières. Elle est, dira Bossuet, le débordement du cœur. il faut que ça soit une méditation. La langue du Père Lejeune est un peu libre, d'aucuns diront qu'il est même un peu inculte, il est simplement naturel, il est simplement hardi, rude et même quelquefois âpre. C'est un homme, sa prédication étant ce qu'elle est, mais c'est un homme qui va former à l'intérieur de l'oratoire un certain nombre de prédicateurs qui le voudront imiter. Le deuxième de l'école, qui aura aussi un grand succès, c'est un grand ami du Père Lejeune, mais c'est à peu près son contraire, c'est le Père Senot, à ULT. 1599, il meurt la même année, 1672. Le Père Senot, lui, a toujours été ecclésiastique, et il a passé, alors c'est le fils du fameux Ligueur Senot, son père était un absolu excité, un grand pourfendeur de parpaillots, voilà. Dure hérédité à porter quand même, hein. Mais qu'il a porté à peu près tranquillement, mais qui, on comprend pourquoi, pendant la première partie de sa vie, en fait il reste discrètement caché dans l'oratoire, et il emmagasine toute connaissance doctrinale, toute lecture des pères de l'Église. Il a proprement parlé, comme dirait Saint Bernard, il mastique l'Écriture qu'il connaît pratiquement par cœur, sur toutes ses coutures. Et puis après cela, il va être invité à prêcher, et il prêchera dans les principales églises de la capitale, et puis après il ira même prêcher dans les provinces. Là, nous avons un homme de style. C'est-à-dire que ces sermons sont écrits avec beaucoup d'ordre, beaucoup de pureté et beaucoup de goût. Une grande élévation de pensée, une grande noblesse de style, et il est de ceux, et peut-être plus que les autres, qui a contribué à purger la chair de ce défaut de méthode, de ce vain étalage d'érudition profane et de ce langage confus que l'on voyait partout. Et le premier, il introduit dans les sermons des divisions simples, mais qui étaient jusqu'alors inconnues, qui deviendront l'usage, hein. L'introduction, deux ou trois points, la conclusion. Voilà, c'est... Avant, vous aviez un nombre incalculable de divisions, de subdivisions, de surdivisions, des choses simples. Les talents oratoires sont relevés en lui par tous les avantages extérieurs. Il a une belle prestance, il a un port grave, il a un air majestueux, une voix nette, sonore, des gestes nobles, bien réglés. C'est un homme imposant par lui-même. Il est, lui aussi, alors réellement un formateur. Il a été supérieur du séminaire Saint-Magloire, qui est le séminaire des oratoriens, et il a formé des prédicateurs, dont le moindre, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, parce que selon moi, c'est un des très grands prédicateurs du grand siècle, Mascaron, qui sera évêque de Marseille, mais aussi Le Bou, qui a été évêque de Périgueux, Fromentière, qui a été évêque de je ne sais où, d'Alette, je crois. Et c'est lui qui fera d'ailleurs l'oraison funèbre du Père Senot. Un nombre considérable de gens qui sont ses étudiants, qui sont ses bizarreries, qui sont ses élèves. Puis après, il a été, après la mort du père Bourgoin, en 62, il a été élu supérieur général de la congrégation de l'oratoire, et il y restera 10 ans puisqu'il meurt en 72. Quand Voltaire lisait le père Senot, il était extrêmement touché. Voltaire fait un éloge du père Senot, selon moi très exagéré. Mais comment est-ce que Voltaire, élevé par les jésuites, je vous le rappelle, a pu connaître le Père Senot, que Madame de Grignan, la belle-fille de Madame de Sévigné, ait entendu le Père Senot et l'ait beaucoup apprécié, bon, ça se comprend, mais comment, presque un siècle plus tard, 50 ans plus tard, Voltaire ait pu lire le Père Senot, et surtout lui donner un tel éloge, ça confond l'entendement quand même. Voilà le Père Senot, de grand air, merveilleusement poli. spirituelle aux deux sens du terme, c'est-à-dire une grande élévation spirituelle et un certain amusement devant le spectacle des hommes. Et autour de sa chair, il y a de nombreux auditeurs. De nombreux auditeurs. Que de fois, on a pris la chair portative que l'on trouve encore dans certaines églises et on l'a transportée dehors parce que personne ne rentrait, dirait pas, à cette place dans les églises. Le père Senon a vraiment été un prédicateur extrêmement couru. Alors c'est vrai que la pureté de sa langue, dans son époque, on n'est pas loin de Bossuet, mais on n'y est pas encore, est absolument merveilleuse, son imagination, tout ça, qu'on sait, c'est, il a tout pour faire un vrai prédicateur. Et pour la première fois de toute l'histoire connue, on a vu au pied de sa chair des gens qui écrivaient ce qu'ils entendaient tomber de sa bouche. Le père Senot n'a jamais publié un seul de ses sermons. Et il était bien étonné quand il les a vus. Mais ses auditeurs ont publié des sermons. Vous savez, Bourdaloue, c'est pareil. Hein. Bourdaloue a été presque étonné quand il a vu la publication de certains de ses sermons. Ça avait été pris à la volée. C'est pas que le père Senot n'écrivait pas ses sermons. Non seulement il les écrivait, mais il semblerait qu'il les travaillait beaucoup. Et il est vrai que pour arriver à une telle pureté de phrase, en ces époques qui sont encore un peu frustes, il y avait manifestement du travail. Néanmoins, de temps en temps, il se laisse aller aux vieux démons d'autrefois. Hein. De temps en temps, il fait de la mythologie. Il est capable de vous en aligner quelques-uns dans un même paragraphe parce que l'auditeur aime aussi un peu ça quelquefois. Il veut bien ne pas avoir étudié pour rien au collège, l'auditeur. À votre avis, pourquoi est-ce que tout à coup, toutes ces choses vont nous revenir d'une manière ou d'une autre dans la vie publique? Au XVIIIe siècle, tout ça revient à la vie publique. Je veux dire que quand l'abbé Laumont écrit le De viris illustribus urbs romanorum, sur quoi nous avons tous sué, ou presque, c'est un best-seller, si l'on peut parler de cette manière. Et pourquoi les révolutionnaires vont s'en chanter? Il faut bien que les études classiques jaillissent quelque part. Elles sont interdites en chaire, mais elles font partie intégrante de la mémoire scolaire peut-être, mais de la mémoire de ceux qui ont fait des études dans nos collèges. Or, à l'époque, si on faisait des études, c'était forcément dans nos collèges, comme ça, ça limite les dégâts de l'impossibilité. Donc, de temps en temps, il se fait saler. Mais c'est extrêmement rare. Le père Senot et le père Lejeune, je le disais tout à l'heure, étaient de grands amis, mais le père Senot est plus élégant, ce qui n'est pas trop difficile. Plus rhéteur, ce qui n'est pas trop difficile non plus. Il trouve que le jeune est trop simple, trop familier. Et d'ailleurs, comme il est son supérieur, puisque c'est le supérieur général de l'oratoire, il invitera à essayer de faire un petit effort, ce que l'autre ne fera jamais d'ailleurs, mais ils resteront très amis. Voilà, le père Senot a recherché la pureté, a recherché la politesse du beau langage, mais suivant son caractère qui était réservé et qui était très digne. Il a donc une phrase très travaillée où l'art et le métier se laissent voir et qui procède volontiers par les deux figures que Gouest de Balzac avait mis en honneur, l'antithèse d'une part et l'hyperbole d'autre part. Mais sans exagération, bien entendu. Mon avis, si tant est qu'il ait quelque intérêt, c'est que le père Senot était un bien meilleur écrivain qu'un grand orateur. Ses sermons sont faits pour être lus. Il n'empêche que les gens se pressaient au pied de sa chair, ils étaient donc faits aussi pour être dits. Je vais vous en donner un tout petit exemple. La définition de l'amour, c'est, je vous laisse, c'est l'esprit de la vie c'est le lien de l'univers, c'est un artifice innocent par lequel nous changeons de condition sans changer de nature, et nous nous transformons à la personne que nous aimons. C'est le plus pur et le plus véritable de tous les plaisirs. C'est une ombre de la félicité que goûtent les bienheureux. La terre ne serait qu'un enfer si l'amour en était banni. Et ce serait une extrême rigueur si Dieu, nous ayant permis de voir les belles choses, il nous avait défendu de les aimer. Mais pour bien conduire cette passion, il faut apprendre de la morale quelle loi nous lui devons prescrire, et quelle liberté nous lui pouvons donner. C'est quand même de la belle phrase. Et ça manque quand même pas non plus d'une imagination particulière. Nous avons assez vu d'oratoriens comme ça. Que font les jésuites? Vous savez, les jésuites, quand les choses commencent, ils sont surtout occupés à éduquer les intelligences. Le gros de leur travail, au moment où commencent les choses, se tient dans leur collège. J'évoquais tout à l'heure le grand exemple de Saint Jean-François Régis, qui est un prédicateur de collège avant toute chose. Donc, ils ne se sont pas répandus, sauf quelques jésuites du courant spiritualiste et non employés dans les collèges, comme le père Coton en son temps. Bon, ils n'ont pas beaucoup répandu dans les chaires. Ils arrivent réellement à la maîtrise des chaires, c'est-à-dire un exercice qui pour eux est commun. Je ne dis pas qu'aucun jésuite n'a prêché dans aucune église de France avant les années 1640. Mais je dis que ce n'était pas leur exercice commun. D'abord parce qu'ils n'avaient pas une vogue si grande que ça chez leurs confrères, et qu'il y avait tellement de gens qui prêchaient qu'on n'avait pas besoin d'eux pour ça. Bah. Vers les années 40, oui, ils commencent à s'installer dans la chaire, et on ne peut pas dire d'eux qu'ils aient eu d'autres principes que ceux que disaient les oratoriens ou tant d'autres. Il en est un cependant, que je retiendrai pour aujourd'hui, c'est le père de Ligende. La première difficulté, c'est d'ailleurs de ne pas le confondre avec son frère, qui était évêque de je ne sais où, évêque de Baza, je crois, et qui lui-même a aussi produit quelques sermons. Le père de Ligende, né en 1591, il meurt en 1660, jésuite donc, dont on ne pourrait pas dire grand-chose, parce que sa particularité, c'est qu'il n'a jamais rien écrit en français. Ses sermons, il les a dit en français, et donc on sait l'impression qu'ils ont fait sur leurs auditeurs, mais il les écrivait en latin. Autrement dit, voilà un homme qui avait un texte en latin dans son nez, qu'il avait appris par cœur, et qui le disait, qui le restituait dans l'instant en français. Le mécanisme intellectuel de l'homme est déjà à souligner. Il a une dialectique rigoureuse, une parole énergique, passionnée, pour un jésuite une morale très austère, une grande ardeur de foi. Il est le vrai annonciateur de Bourdaloue. D'ailleurs, Bourdaloue d'abord le consultera, et puis après se mettra à son école. Et si vous regardez bien Bourdaloue et que vous connaissez un peu quelques textes du père de Ligende, ou si vous avez des éditions de Bourdaloue faites par un éditeur charitable, il met une note au bas de la page, et dans le père de Ligende, on trouve cet argument déjà. Ah oui, c'est le maître. Voilà. La doctrine du père de Ligende est, comme bien vous vous en doutez, sûre, au rasoir. Les preuves sont présentées dans un ordre très éclairant. Très bonne connaissance de l'écriture, très bonne connaissance des pères de l'Église. Il cite les pères de l'Église, toujours à propos, mais aussi avec beaucoup de discrétion. Pas d'étalage intempestif. En un mot, tout ce qui constitue un enseignement religieux très élevé appartient aux pères de Ligende. Mais la forme est souvent sèche, nue. Il manque souvent dans son ton d'émotion, de chaleur. l'âme, la vie sont un peu sèches dans son discours. Et il ne cherche pas à faire des éclairs d'éloquence, et apparemment il y arrive tout de même, puisqu'il a de nombreux auditeurs lui aussi, qui viennent chercher, je pense, cette parole énergique, passionnée. Le père Rapin, qui a fait une espèce de collection de prédicateurs de cette époque, écrit cela. « Rien ne parlait tant à l'avantage du père de Ligende que le silence de l'assemblée quand il avait achevé son sermon. On voyait ses auditeurs se lever de leur chaise, le visage pâle, les yeux baissés, et sortir tout émus et pensifs de l'église sans dire un seul mot, surtout dans les matières touchantes et quand il avait lieu de faire le terrible, ce qu'il faisait fort souvent. » N'empêche que lui aussi, de temps en temps, on ne sait si c'est pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à ses auditeurs, il faisait de la mythologie, et il était capable, dans un même discours, de citer Martial, Sénèque, Lucrèce, Aristote, Platon, et en même temps, Saint Grégoire de Nyssa, Saint Jérôme, Saint Amboise, Saint Pierre Damien. Et lorsqu'il se montra plus sobre dans ses citations, il sacrifia encore quelquefois au mauvais goût de l'époque en prodiguant des comparaisons et des traits empruntés à des histoires de l'Antiquité ou à des histoires païennes. Enfin, vient Saint-Vincent de Paul. Vient Saint-Vincent de Paul qui lui aussi sort des industries de M. de Bérulle. Il ne sort pas de l'oratoire, mais il sort de la direction de conscience du cardinal de Bérulle. Et il va rendre à la chaire, par l'institution comme par l'exemple, un immense service. À propos de Saint-Vincent de Paul, je vous invite vivement à vous méfier de ces traditions trop faciles qui, en exagérant à l'excès certains traits de sa personne, en dissimule d'autres, bref, fausse son portrait et ignore ce que fut la réalité de son ministère. Je veux bien qu'il soit rustique. Je ne vois pas en quoi il est ignorant. Je veux bien qu'il ait une certaine spontanéité naïve. Mais méfiez-vous de l'apparence du Gascon. A-t-il jamais manqué d'intelligence? Est-ce que par hasard il n'aurait pas fait d'études régulières? Est-ce qu'il n'aurait pas un souci très exact de la juste doctrine? Il est un peu fruste, mais c'est un jeu. Car on s'aperçoit bien, dans sa correspondance, de sa finesse, de sa pénétration. Il a une façon naturelle d'être, mais c'est une façon qui ressemble à celle du père Lejeune. Il est autrement, donc il domine ses contemporains, même à la cour, même chez les grands. Et vous ne pouvez admirer sa parfaite charité, sa bonté, son humilité, que si vous savez ça. En même temps, vous pourrez aussi souligner sa volonté, son obstination, son autoritarisme. Même si vous voyez la plus décente et la plus noble façon d'être jusque dans ses abaissements. C'est un personnage tout à fait particulier que Saint-Vincent de Paul. Et vous ne pouvez strictement pas le réduire à une espèce de chromo. Vous savez, c'est un peu comme les innombrables personnes qui croient que le curé d'Ars n'avait pas le latin. Vous imaginez ça. Ou qu'il était totalement idiot. Moi, je veux tout ce qu'on veut. Il n'avait pas l'esprit scolastique. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, je vous mets au défi de trouver le moindre esprit scolastique dans ses sermons, sauf quand il sue sang et eau pour s'appliquer. En plus, c'est pas son époque. Donc la manière scolastique d'apprendre le latin, c'est pas son truc. Quand on va le laisser à son propre génie, pas de problème. Et d'ailleurs, dans le cours où il est au séminaire, brillant séminaire, c'est le cours de Saint-Marcellin-Sampagnat et d'un certain nombre de gens. Il y a un seul type qui est avancé aux ordres dans cette année extrêmement brillante, et c'est lui. Alors ne me dites pas qu'il est totalement idiot et qu'il ne peut pas faire des études. Il est probablement meilleur que ses copains, à moins qu'il soit tellement embêtant au séminaire qu'on leur donne vite fait. Voilà. Bon. Et ce sont presque des. Ces pieuses choses finissent par être des caricatures. Et Saint-Vincent de Paul fait partie de ces gens qu'on caricature assez facilement, en oubliant sa première qualité, c'est qu'il est gascon. Et on sait comment marchent les gascons. Et il est gascon admirablement, il est gascon jusqu'au bout des ongles, il joue le gascon tout le temps. Ce qui, à son époque et à la cour, n'est pas une chose étrange. Henri IV n'est pas loin et les gascons sont encore là. D'Artagnan est aux affaires. Est-ce que Saint-Vincent de Paul a jamais rencontré D'Artagnan? Ce sera mon prochain roman. Mais voilà. Sa prédication commence évidemment par la pratique. Il a formé des prédicateurs, mais il s'est formé lui-même, il s'est formé à la dure. Curé de Clichy s'est tombé dans une situation à peine sortie des guerres de religion. Alors, curé de Châtillon-les-Dombes, vous imaginez ce que c'est. Vous imaginez ce que c'était l'église d'Ars quand est arrivé le curé d'Ars. Mais c'était encore pire à Châtillon-sur-Dombes quand est arrivé Vincent de Paul. Qui n'y est d'ailleurs pas resté très longtemps. Mais les premiers ministères de prédication qu'il a fait, et que l'on connaît, ne sont pas des ministères faciles. Donc il y a Clichy et Châtillon-les-Dombes. Il y a la reine Margot aussi dont il était aumônier. On a un peu oublié qu'il était l'aumônier de la reine Margot. Il n'est pas arrivé à la cour comme ça par enchantement. Il n'est même pas sans doute arrivé aumônier de la reine Margot comme par enchantement. Prêcher à la reine Margot, une femme intelligente, de mœurs un peu libre, encore qu'aujourd'hui elle paraîtrait quasiment religieuse. un esprit pertinent, mais mauvais, toucher l'intelligence de la reine de Marguerite, toucher son cœur, n'a pas été forcément une chose facile. C'est l'œuvre de Saint-Vincent de Paul. Et avec elle, combien de gens seront touchés par cette prédication de Saint-Vincent de Paul, qui demandait plus que d'être un brave type, hein. On lui demandait l'application de l'intelligence, et plus que l'application, l'habileté de la démonstration. Ce qu'il sait faire. Après, le séminaire des bons enfants, les religieuses de la charité, les prêtres de Saint-Lazare, c'est de la rigolade. Mais son génie peut se transmettre, et il entend le transmettre. Mais son génie, c'est le génie de la simplicité. C'est dans sa démonstration de ramener les choses au cœur de la démonstration, plutôt que de compliquer le problème, le simplifier jusqu'à ce qu'on le touche réellement. Et je vous assure qu'amener la Marguerite de Valois à la simplicité de la démonstration, il fallait être un grand pédagogue pour ça. Ben, il le fit. Sa manière est essentiellement directe et naturelle. Chez lui, il n'y a plus de division, de subdivision, il n'y a plus d'interprétation ou d'allégorie, il n'y a plus d'histoire générale et il n'y a plus de petites histoires à raconter, il n'y a plus de littérature, il y a un cœur qui parle au cœur. Une âme qui s'ouvre à l'âme. Et ce cœur et cette âme voudraient se nourrir essentiellement d'amour de Dieu, du double amour de Dieu et du prochain. Ou plus exactement, pour Saint-Vincent de Paul, il n'y a pas d'amour du prochain. Il n'y a que l'amour de Dieu. Et l'amour du prochain déborde de l'amour de Dieu. C'est parce que j'aime Dieu que j'aime mon prochain, et c'est pas parce que j'aime mon prochain que j'aime Dieu. Vous voyez la subtile nuance qu'il faudrait peut-être apprendre aujourd'hui. Alors vous me direz, il suffirait de réciter l'acte de charité tous les soirs pour le savoir. Mes pauvres amis, à part vous, personne ne sait l'acte de charité. Si, à moi aussi. Mais et parce que c'est l'amour de Dieu, j'aime le prochain, quel que soit ce prochain. Et c'est cet amour de Dieu que l'on voit déborder du cœur de Saint Vincent de Paul. C'est ça qu'on voit, c'est cela qu'on sent. Et voici le modèle involontaire. Ce texte qu'on cite toujours, mais qu'il faut toujours citer, cette objurgation qui fait aux braves dames, aux bonnes dames qui ont pris en charge les enfants trouvés, mais qui sont prêtes d'abandonner devant les difficultés de la tâche. Et voilà le discours qui leur tient. Or, sus, mesdames, la compassion et la charité vous ont fait adopter ces petites créatures pour vos enfants. Vous avez été leur mère, selon la grâce, depuis que, selon la nature, leur mère, selon la nature, les ont abandonnés. Voyez maintenant si vous voulez aussi les abandonner. Cessez d'être leur mère pour devenir à présent leur juge. Leur vie et leur mort sont entre vos mains. Je m'en vais prendre les voix et les suffrages. Il est temps de prononcer leur arrêt et de savoir si vous ne voulez plus avoir de miséricorde pour eux. Ils vivront si vous continuez d'en prendre un charitable soin, et au contraire, ils mourront et périront infailliblement si vous les abandonnez. Vous connaissez la suite. Tout change, voilà. Eh bien, c'est la manière dont il parle généralement dans sa prédication. Tel est le ton. Et il s'y élève tout de suite. Et il s'y tient constamment. Dans ses prônes, il va immédiatement au cœur du sujet, et son sujet, c'est la vie chrétienne qui doit être la vie quotidienne, la vie de chaque jour. Lui, il ne part pas de bien loin, il part du catéchisme. Il y montre l'ordre naturel comme l'ordre social et l'ordre de la grâce. Il rappelle que la foi est la même partout où elle est enseignée, sous toutes les latitudes, et que partout l'Église a les mêmes enfants. Une prédication essentiellement populaire, réservée au peuple. Et lui-même dit déjà tout ce qu'il veut en des formules saisissantes, que pour gagner la vie éternelle, il n'est nécessaire que de la pure application de nos cœurs. L'ordre que je tiendrai sera si facile qu'un chacun en sera capable. Aussi les indoctes comme les doctes, et les petits comme les grands, rejetant toutes sortes de questions vaines et inutiles, et toutes enquêtes même superflues. Il entrait déjà dans son œuvre de mission, et c'était un point essentiel, de préparer à la parole ceux qui devaient porter la parole. C'est-à-dire de créer un ordre, une compagnie, lui dit une compagnie d'ailleurs, en général, il parle pas de congrégation ou de choses semblables, pour prêcher. C'est ça le plus important. Rien n'est plus important pour lui que la prédication. Tout le reste est secondaire, ou plutôt, tout le reste est ordonné à cette prédication. Et cette prédication, ce qui est le plus important, c'est évidemment la doctrine que l'on va démontrer pour inviter à la vie chrétienne. Nous n'avons apporté que ce qui était nécessaire pour vous donner une simple connaissance de la vertu qui se trouve dans la foi que nous prêchons, traitant avec vous dans la simplicité, sans chercher à vous surprendre, tout bonnement, afin que vous vissiez, non par les adresses et l'industrie de vos raisonnements, mais par la vertu de Dieu qui reluit dans la bassesse et la simplicité des mystères que nous sommes venus lui prêcher. C'est sa conférence du 20 août 1655. Ses intentions, ce sont celles-là, et il s'en applaudit. Vive donc la simplicité qui fait des miracles. Vive la sainte simplicité, la petite méthode qui est la plus excellente et celle par laquelle on peut acquérir plus d'honneur, persuadant l'esprit, sans toutes ces clameurs qui ne font qu'importuner les auditeurs. Oh, messieurs, cela est tellement vrai que si un homme veut passer pour un bon prédicateur dans les églises de Paris et à la cour, il faut qu'il prêche de la sorte, sans nulle affectation. Et l'on dit de celui qui prêche ainsi, cet homme fait des merveilles. Il prêche à la missionnaire, il prêche en apôtre. Pour bien prêcher, on dit qu'il faut prêcher comme nous, à la missionnaire. Et en vérité, prêcher autrement, c'est vouloir se prêcher soi-même, et non pas Jésus-Christ. Il prêche à la missionnaire. Oh mon Dieu, vous nous avez donc fait cette grâce, à nous, à la petite et chétive compagnie que nous sommes, de lui inspirer une méthode que tout le monde peut suivre. Nous vous en remercions de toutes nos forces. Ah, messieurs, ne nous rendons pas indignes de cette grâce que tout le monde estime si fort. Voilà ce qu'il va transmettre. Par ailleurs, il est bien trop personnel d'accent, bien trop particulier dans ses expressions pour indiquer une méthode stylistique. Et en plus, je pense que ça ne l'intéresse pas du tout. La technique et tout ce genre. Mais n'imaginez pas qu'il n'y ait pas de méthode. Il y a une méthode. Il y a une méthode. Elle n'est pas extrêmement longue. Ah ben si, je l'ai. Elle n'est pas extrêmement longue. Voilà. Je vous la donne tout entière. Vous voyez ? Et c'est recto seulement, c'est pas verso. Ah, c'est pas très long. C'est son successeur, le père d'Almeras, qu'il avait indiqué au suffrage de ses enfants pour qu'il fût son successeur à la tête de Saint-Lazare, qui a résumé en décembre 1666 la méthode de prédication. Elle est extrêmement simple, mais rien n'y manque. Il n'y a pas de recherche stylistique, il n'y a pas de choses semblables, il ne sait pas faire. Mais il y a une vraie méthode. Il y a une vraie méthode, il y a des vraies coupures, il y a... Mais cette méthode ne serait rien sans le premier principe, c'est-à-dire le principe de la foi, le principe de la foi et cette foi n'est jamais exprimée selon les raisonnements communs. Alors j'ai lu dans un ouvrage que je ne citerai pas par charité chrétienne, puiser sur la foi et non sur la raison. C'est pas vrai du tout. C'est puiser sur la foi et non pas sur les raisonnements. C'est pas pareil. Nous qui vivons sous le bienheureux pontificat de Benoît XVI, j'espère que nous savons bien ce que c'est que la foi et la raison, et que nous ne prenons pas les raisonnements des hommes pour la raison. Et pour Saint Vincent de Paul, c'est une chose bien claire. Pas le raisonnement commun des hommes. Je crois que le mot raison, dans le sens où nous l'entendons ici, il n'en parle jamais. Non, il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Le peu d'avancement à la vertu et le défaut de progrès dans les affaires de Dieu provient de ce qu'on ne s'établit pas assez sur les lumières de la foi et qu'on s'appuie trop souvent sur les raisonnements humains. Non, non, il n'y a que les vérités éternelles qui soient capables de nous remplir le cœur et de nous conduire avec assurance. Croyez-moi, il ne faut que s'appuyer fortement et solidement sur quelqu'une des perfections de Dieu, comme sur sa bonté, sur sa providence, sur sa vérité, sur son immensité, etc. Il ne faut, dis-je, que de se bien établir sur ses fondements divins pour devenir parfait et convertir les autres en peu de temps. Ce n'est pas qu'il ne soit bon aussi de se convaincre et de convaincre par des raisons fortes et prégnantes qui peuvent toujours servir, mais avec une subordination aux vérités de la foi. L'expérience nous apprend que les prédicateurs qui prêchent conformément aux lumières de la foi opèrent plus dans les âmes que ceux qui remplissent leurs discours de raisonnements humains et de raisons philosophiques. Raison étant au pluriel, bien sûr. Parce que les lumières de la foi sont toujours accompagnées d'une certaine onction toute céleste qui se répand secrètement dans les cœurs des auditeurs. Là, on voit bien que c'est le papa de Bossuet. Il y a Bossuet qui, lui, dit le prédicateur intérieur. Ça correspond exactement à cette définition. Et de là, on peut juger s'il n'est pas nécessaire, tant pour notre propre perfection que pour procurer le salut des âmes, de nous accoutumer de suivre toujours et en toutes choses les lumières de la foi. C'est une lettre du 17 octobre 1659. Dans une autre, ne craignez pas d'annoncer au peuple les vérités chrétiennes dans la simplicité de l'Évangile et des premiers ouvriers de l'Église. La réputation de la compagnie, donc la compagnie sont les lazaristes, doit être en Jésus-Christ et le moyen de l'y mettre et de l'y maintenir et de se conformer à lui et non pas au grand prédicateur. Vous me demandez qu'il vous faut un bon prédicateur ou qu'il ne faut pas se mêler de prêcher après tant d'autres ouvriers qui font mission et qui prêchent excellemment. Nous n'en avons pas de tels. Et si nous affectons d'instruire le pauvre peuple pour le sauver, et non pas pour faire valoir et nous recommander, nous aurons assez de talent pour cela. Et plus nous y apporterons de simplicité et de charité, plus nous recevrons de Dieu des grâces pour y réussir. Il faut prêcher Jésus-Christ et les vertus comme les apôtres ont fait. C'est une lettre du 26 décembre 1659. Ah oui, ça c'est... Une fois, nous fîmes la mission en un lieu pour nous faire considérer d'un feu, monsieur le président du Parlement de Paris, auquel nous avions affaire. Dieu permit un succès tout contraire pour ce que la compagnie y fit paraître, plus qu'en bas, un autre lieu, les pauvretés et les misères de nos esprits, et qu'il fallut que je retournasse après la mission demander pardon à un prêtre à genoux pour quelque offense qu'un de la compagnie avait faite. Évidemment, tout ça, c'est fait pour prémunir ses disciples de la vanité du succès. Prenez garde à la vanité, vous qui allez en mission, vous autres qui parlez en public. Il faut monter en chair comme sur un calvaire pour n'en rapporter que de la confusion. Quelquefois et assez souvent, l'on voit un peuple si touché de ce que l'on a dit. L'on voit que chacun pleure, et il s'en rend compte même qui, passant plus avant, vont jusqu'à prononcer ces mots « Bienheureux le ventre qu'il vous a porté, les mamelles qui vous a allaité ». Nous avons ouï dire de semblables paroles quelquefois. Entendant cela, la nature se satisfait, la vanité s'engendre et se nourrit. Si ce n'est qu'on réprime ces vaines complaisances et qu'on ne cherche purement que la gloire de Dieu pour laquelle seul nous devons travailler. Oui, purement pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Car en user autrement, c'est se prêcher soi-même et non pas Jésus-Christ. Et une personne qui prêche pour se faire applaudir, louer, estimer, faire parler de soi, qu'est-ce que fait cette personne, ce prédicateur? Que fait-il, je vous le demande? Un sacrilège. Quoi? Oui, un sacrilège. Quoi? Se servir de la parole de Dieu et des choses divines pour acquérir de l'honneur et de la réputation? Oui, monsieur, c'est un sacrilège. Oh, mon Dieu, faites la grâce à cette pauvre petite compagnie que pas un de ses membres ne tombe dans ce malheur. Croyez-moi, messieurs, nous ne serons jamais propres pour faire l'œuvre de Dieu que nous n'ayons une profonde humilité et un entier mépris de nous-mêmes. Non, si la congrégation de la mission n'est humble et si elle n'est persuadée qu'elle ne peut rien faire qui vaille, qu'elle est plus propre à tout gâter qu'à bien réussir, elle ne fera jamais grand-chose. Mais lorsqu'elle sera et vivra dans l'esprit que je viens de dire, elle sera propre pour les desseins de Dieu, parce que c'est de tels sujets dont Dieu se sert pour opérer les grands et véritables biens. Oui, Dieu sera avec vous et opérera par vous, car il se plaît avec les simples, il les assiste, il les bénit. Il bénit leurs travaux, il bénit leurs entreprises. Au contraire, ce serait une impiété de croire que Dieu veuille favoriser ou assister une personne qui cherche la gloire des hommes et qui se repaît de vanité, comme font tous ceux qui prêchent en eux-mêmes et qui, dans leur prédication, ne parlent point ni avec simplicité ni avec humilité, car pourrait-on dire que Dieu veuille aider un homme à se perdre? C'est ce qui ne peut entrer dans la pensée d'un chrétien. Oh, que si vous saviez combien c'est un grand mal que de s'ingérer dans l'office de prédicateur pour prêcher autrement que Jésus-Christ n'a prêché, et autrement que ses apôtres et plusieurs grands saints et grands serviteurs de Dieu n'ont prêché et ne prêchent encore en présent, vous en auriez horreur. Ce n'est point le faste des paroles qui profite aux âmes, mais la simplicité et l'humilité qui attirent et qui portent dans les cœurs la grâce de Jésus-Christ. Lui-même, Bah, de ce que l'on en sait, parce que comme je vous ai dit, on n'a aucun sermon de Saint-Vincent de Paul. L'abbé Jamin en a publié au XIXe siècle. Il a oublié de nous dire que c'était... Enfin, il n'a pas oublié, c'est marqué dans le titre du livre, mais l'abbé Jamin était déjà un vrai publicitaire. C'était des sermons des disciples de Saint-Vincent de Paul. Ce n'est pas des sermons à lui du tout. Et en plus, je soupçonne l'abbé Jamin de les avoir bien corrigés. Parce qu'alors, pour le coup, ils sont d'une langue classique admirable. Mais l'esprit y est. Lui, on n'a pratiquement rien de lui. De la correspondance, oui, des scripts de conférences pris par un ignorant qui en plus devait être d'Arras ou d'Amiens, oui, mais de récits de témoins, etc., oui, mais de sermons, on l'a pas. Mais d'après ses auditeurs, il parlait de manière simple, mais, et c'est un trait de Saint-Vincent de Paul qu'il ne faut jamais oublier, toujours forte et toujours efficace. L'efficacité chez Saint-Vincent de Paul est une chose très importante. Et on peut juger que son discours est aussi efficace que son action. Et il arrivait ainsi, sans avoir besoin d'autre chose, sans avoir besoin d'ornement, là, il arrivait ici à la vraie éloquence, disant « Comme les beautés naturelles ont bien plus d'attrait que les artificiels et les fardés, de même les discours simples et communs sont mieux reçus et trouvent une plus favorable entrée dans les esprits que ceux qui sont affectés et artificieusement polis. » Il s'agit simplement et humblement pour s'accommoder au peuple et donner le modèle de la façon de traiter la Sainte Parole. Toute la rhétorique de Saint-Vincent de Paul donc, est donc dans ce petit abrégé, pas grand-chose, dans ce petit abrégé, et il sera en usage dans la congrégation de la mission, à partir de toujours, puisque c'est la manière dont il a formé, c'est le père d'Almeras n'a fait jamais que dire ce que Saint-Vincent de Paul disait. Et dès le commencement des conférences de Saint-Lazare, Saint-Vincent de Paul réunit d'autres ecclésiastiques que ses enfants. Il réunit des ecclésiastiques plutôt distingués. Là, vous avez Nicolas Pavillon, qui lui sera évêque d'Alette. Vous avez Jean-Jacques Ollier, le fondateur de la Compagnie de Saint-Sulpice. Vous avez Pérochel, qui sera évêque de Boulogne. Et puis, dans les petits jeunes qui vont arriver, ben, vous aurez Jacques Bénigne Bossuet, qui, vous l'ignorez peut-être, sera évêque de Meaux et le prédicateur qui nous occupera la prochaine fois. Il faisait travailler tout le monde. Et ça, c'est une chose intéressante. C'est-à-dire qu'il proposait un sujet, et chacun, sans bouger, là, sur le lieu, sur l'instant, sans livre, s'exerçait à écrire et à parler. Et chacun disait son mot, ou fournissait, par écrit, son contingent à l'œuvre commune. Saint-Vincent de Paul, évidemment, disait, mais c'est un gascon, il n'y a que moi qui n'ai su rien dire ni faire qui vaille. Mais ça, c'est... les avis pris, chacun disait, ah oui, ça, ce que vous avez dit, c'est bien, ou ça, non, je ne sais pas bien, etc. On prenait les avis de chacun et on concluait. Ou bien, on recueillait tous les papiers qui avaient été écrits et on composait une conférence. Et tout cela se faisait simplement et familièrement, généralement, le mardi. Que si quelqu'un ensuite venait présenter de belles pensées, alléguer plusieurs belles raisons, quantité d'autorité des pères des conciles et de tout ce que l'on voulait, cela était beau. Mais ce prédicateur effaçait tout ce que l'autre en particulier avait laissé de bon dans les âmes. Comme lorsque vous avez imprimé sur quelque chose, l'un vient avec une éponge effacer tout, il n'y paraît plus d'impression, tout est effacé. De même, l'esprit bien touché et impressionné d'un discours simple et pratique perd aussitôt ses bons sentiments et ses saintes pensées par un autre discours relevé qui empêche les effets du premier. Eh bien, il n'y a rien à ajouter. Voilà comment Bossuet a été formé. Vous verrez la prochaine fois qu'il n'est pas le seul maître de Bossuet, que Bossuet a eu d'autres maîtres que Saint-Vincent de Paul. Mais celui qui l'a fait travailler. Car vous avez bien réalisé ce que c'était que ces conférences du mardi. C'était une vraie formation professionnelle, si je peux ainsi dire. Et En 1652 et 1653, Saint-Vincent de Paul fait faire des conférences spéciales sur la prédication et ordonne de ramasser tout ce que lui-même, ce que M. Portail, qui est son bras droit, et les autres anciens missionnaires estimaient plus propre à la rendre également solide, claire, facile. M. Portail, en effet, composa un énorme volume, une folio, pour rassembler toutes ces idées, et c'est ce volume qui sera jugé illisible, indigeste, trop, qui pour l'historien est une mine, que M. Almeras, bon disciple, remplacera par quelques feuilles de papier. Il y a donc une méthode, et cette méthode, il l'a fait. Il fera de nombreuses conférences aux uns et aux autres, mais surtout à ses ecclésiastiques qu'il regroupait autour de lui pour montrer comment on peut arriver à cette efficacité, très important l'efficacité une fois encore chez Saint-Vincent de Paul, à cette efficacité de prédication par la simplicité et par la familiarité. Qu'est-ce que toute cette fanfare? Quelqu'un veut-il montrer qu'il est bon rhétoricien ou bon théologien? Chose étrange, il en prend mal le chemin. Peut-être qu'il sera estimé de quelques personnes qui n'y entendent guère. Mais pour acquérir l'estime des sages et la réputation d'un homme fort éloquent, il faut savoir persuader ce qu'on veut que l'auditeur embrasse et le détourner de ce qu'il faut qu'il évite. Or, cela ne consiste pas à trier ses paroles, à bien agencer les périodes, à exprimer d'une manière peu commune la subtilité de ses conceptions et à prononcer son discours d'un ton élevé, d'un ton de déclamation qui passe bien haut par-dessus toutes les têtes. Ces sortes de prédicateurs obtiennent-ils leur fin? Persuadent-ils fortement l'amour de la piété? Le peuple est-il touché et court-il après la pénitence? Rien moins, monsieur. Mais voilà cependant les prétentions de ces grands orateurs. Voici leurs prétentions. Acquérir de la réputation, faire dire au monde, vraiment cet homme débite bien, il est éloquent, il a de belles pensées, il les exprime admirablement. Voilà à quoi se réduit tout le fruit de leur sermon. Vous montez donc en chair, non pas pour prêcher Dieu, mais pour vous prêcher vous-même. Et vous vous servez, oh quel crime, d'une chose aussi sainte que la parole de Dieu pour nourrir et fomenter votre vanité, ô divin sauveur. Contre ça, il faut l'intention droite, le bon exemple, l'amour d'une méthode simple et familière. Sans quoi, comme le dira Massillon, il dit à proprement parler, nous perdrons notre honneur par cette méthode triviale et abjecte. Il n'y va pas par quatre chemins. Et nous arrivons à la fin de notre course à pied haletante qui nous a servi d'introduction. Et arrivant à la fin, en fait, nous allons renouer avec le même personnage. Parce que s'il y a un grand inspirateur, c'est quand même Saint-François de Sales. Alors lui se défend d'être l'inspirateur. Bon, d'accord, d'accord, nous respecterons son humilité, nous l'admirerons avec transport. N'empêche que c'est quand même pas moi qui ai écrit la lettre à l'archevêque de Bourges pour lui expliquer comment il fallait prêcher. C'était le frère de Sainte-Jeanne de Chantal, on était en famille, mais tout de même, bon, c'est quand même lui. Eh bien, on retrouve à peu près les mêmes convictions que chez Saint-Vincent de Paul. Quand on écoute Saint-François de Sales, ou quand on le lit, on trouve la même simplicité dans la grandeur, la même familiarité dans le sublime, le même mépris pour tout ce qui ne fait que flatter les oreilles délicates, la même proscription de la chose controuvée et du profane, la même sévérité chrétienne, le même oubli de soi, le même désir d'aimer, de transmettre l'amour, le même mépris de la vaine rhétorique. Et lorsque Saint-Vincent de Paul demandera à Bossuet, son élève chéri, de prêcher le fameux panégyrique de saint Paul. Nous sommes le 30 juin 57. Bossuet est encore un jeune homme. Bossuet presque depuis 5 ans à cette époque-là. Bossuet commence à prêcher en 52 à peu près, hormis le sermon de l'hôtel de Rambouillet dont je vous ai entretenu tout à l'heure. Eh bien, quand vous lirez ce panégyrique, celui de saint Paul de 57, hein, de juin 57, pas l'autre, ou les autres, suivant les éditions que vous avez, eh bien, vous trouverez le panégyrique de la vraie prédication chrétienne en se servant de la personne de saint Paul. Et c'est la définitive rupture de toute alliance avec la rhétorique profane et la proclamation sublime de la rhétorique chrétienne. Pour le coup, là, et à ce moment-là, est exprimé nettement que la rhétorique de la chair, l'éloquence de la chair, la rhétorique chrétienne, se suffit à elle-même. Il n'est plus besoin de se servir d'une autre rhétorique venue de où on voulait. C'est un art plein et c'est un art total. Et alors, nous pourrons commencer notre propos réellement. Et bien évidemment, nous commencerons par Bossuet. Il nous faudra quand même au moins 2 séances pour traiter de l'homme. Nous commencerons évidemment par sa formation, qui est extrêmement complète, insistant sur ses maîtres, qui ont été assez nombreux et qui ont été des gens assez capables. Ça nous permettra de les rappeler de la nuit de l'histoire, parce que tout le monde a un peu oublié les Couvetot et compagnie qui ont pourtant joué un grand rôle, parce qu'ils ont formé des gens, parce que Bossuet est formé, mais comme vous l'avez compris, beaucoup d'autres sont formés en même temps que lui. Lui arrive à un génie tout particulier. Il n'a pas le don d'ubiquité au point d'être dans toutes les églises de France au même moment. Donc il y a d'autres gens qui sont formés en même temps, et ce dont Bossuet est un archétype, il l'est parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est un peu comme le curé d'Ars précédemment cité. Le curé d'Ars est l'archétype d'un certain type de curé qui existait partout en France à son époque, le jeune prêtre de la Restauration, qui sera le vieux prêtre de la fin du XIXe siècle. Mais qu'est-ce que vous voulez, personne ne rajeunit. Mais voilà, il faut bien comprendre ça. Donc, nous verrons cette formation de Bossuet, et nous comprendrons qu'il n'est pas tout seul dans son affaire. Et puis après, nous rentrerons davantage. Donc, il nous faudra au moins 2 séances pour parler de Bossuet, et peut-être même 3 si je suis trop bavard, comme je l'ai été ce soir. Merci beaucoup de votre patience.